Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Jocelyne Moussa Oupondé. Ouverture du procès de l'ancien ministre Constant Mutamba devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour détournement présumé de 19 millions de dollars dans un marché douteux avec une société fictive. Dans le Mai Ndombé, flambée inquiétante des cas suspects de choléra avec déjà 16 décès, Bolobo identifié comme épicentre alors que les autorités sanitaires lancent la riposte et appellent à l'aide. Réformes électorales en RDC, Luc Loutala de la CIMOCEL évoquera dans ce journal les recommandations prioritaires issues du dialogue multi-acteurs en cours à Kananga. Bonsoir à tous. La Cour de cassation a ouvert ce mercredi le procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. À cette première audience publique, le ministère public a exposé les faits pour lesquels il a déféré les prévenus devant la Cour. Il l'accuse de détournement de 19 millions de dollars dans un marché de gré à gré avec la société Zion Construction, qui n'existe que des noms et sans aucun actif financier, selon le parquet général. Après avoir beaucoup insisté sur le renvoi de la cause, la défense a finalement obtenu des juges une remise au 23 juillet. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Cette remise permet à la défense non seulement de s'imprégner des pièces qui gisent au dossier, les compulser pour un débat contradictoire avec le ministère public, mais aussi de régulariser la procédure pour le prévenu qui n'a pas pu suivre tout le déroulé de l'audience à son débit. D'après la défense, la cour doit se conformer aux exigences d'un procès équitable. Yves Kisombe, avocat de Mutamba.
La procédure pénale fait dépendre de son déroulement le sort des accusés. Et ici, chacun a droit à un procès équitable. Et le procès équitable, c'est l'indépendance du juge, mais c'est aussi le respect de la procédure. Il y va des droits fondamentaux, il y va de l'efficacité de ce qui sera fait ici. Constant Mutamba n'a pas été cité régulièrement. Il a été cité par le greffier en chef, alors que c'est le procureur général qui doit lui adresser la citation à prévenu. Alors, le ministère public a, avec l'autorisation de la Cour, procédé à la présentation générale des accusations contre le ministre Mutamba avant son arrivée. Elle a estimé par la suite que c'était nous, les avocats, qui devions faire le rapport à notre client. Vous verrez la ligne de la défense de Constant Mutamba.
Une trentaine d'avocats de la défense plaident pour l'innocence de l'ancien garde des Sceaux. Il déclare attendre de la Cour de dire le vrai droit, le prévenu comparé à un homme libre.
Toujours en lien avec la justice, mais cette fois au Nord-Kivu, focus sur la fin d'une série d'audiences foraines à Beni. Le tribunal militaire de Butembo a condamné 24 militaires et un civil pour des violations graves de droits humains, notamment 13 cas de viol sur mineurs. C'était à l'issue des audiences foraines organisées du 26 juin au 8 juillet à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Ces audiences soutenues par la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme visaient à renforcer la lutte contre l'impunité en zone de conflit. Martial Papimoukeba pour les détails.
Les 24 militaires et un civil ont été condamnés à des peines lourdes allant des 5 à 20 ans de servitude pénale principale, voire à la peine capitale. Ils devront aussi verser des amendes et dommages-intérêts pouvant atteindre 25 000 dollars américains. Ils étaient poursuivis pour violences sexuelles, meurtres et homicides, des faits survenus entre 2021 et 2024 dans la commune rurale de Lubero et ses environs. Maître Lydie Kake, avocate des victimes, exprime leur soulagement.
Ça a été un soulagement pour les victimes. Il y avait certaines qui pensaient que c'est déjà fini. On pouvait plus parler de leur sort en rapport avec les violations à leur égard. Les condamnés sont en train de purger leur peine à la prison centrale de Butembo. On veut voir maintenant les victimes obtenir réparation en rapport avec les préjudices qui leur ont été causés.
Ces audiences ont été rendues possibles grâce au soutien logistique et technique de la MONUSCO Beni à travers sa section d'appui à la justice, les bureaux congés des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la section de protection protection de l'enfant. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Dans le Congo central, c'est un phénomène inquiétant qui préoccupe autorités et habitants. Les cas de justice populaire se multiplient. À Matadi, 3 présumés voleurs ont été lynchés avant d'être brûlés vifs. Ce drame s'est produit dimanche et lundi dernier au camp Palmier dans la commune de Mvouzi et près de l'hôpital général de Kiamvu dans la commune de Nzanza. Le maire de Matadi qui hausse le ton face à ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur dans sa juridiction promet de sévir contre les auteurs de ces actes. Dominique Nkodia interpelle également les autorités judiciaires accusées de relâcher pour des raisons non élucidées des individus dénoncés par la population. Le maire de Matadi, Dominique Nkodia, dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Nous n'encourageons pas notre population à se faire justice. Et quand nous disons chaque fois que la sécurité est l'affaire de nous tous, c'est vrai, mais ça signifie que lorsque nous trouvons une personne suspecte, nous la cheminons à la police pour des enquêtes appropriées et approfondies. Même si nous attrapons quelqu'un en flagrance, les mieux à faire, c'est de les maîtriser et l'amener auprès des services de sécurité. Mais se faire justice, ça nous disons non, 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 nous n'encourageons pas. Et nous allons sévir contre des personnes qui se font justice. Mais là également, nous devons attirer aussi l'attention de notre justice. Mais quand la population remarque ou constate que ce sont les mêmes personnes qu'on arrête plusieurs fois et qui sont libres, là ça la population commence à se poser beaucoup de questions. C'est pourquoi nous enregistrons des cas de justice populaire. Donc à tous les niveaux, nous devons prendre des dispositions pour que cela cesse. À la population, nous disons plus question de se faire justice. À la justice également de jouer correctement son rôle pour ne pas tenter la population à se faire justice.
Page santé à présent avec une flambée de choléra signalée dans la province du Maïndombé. Cette augmentation des cas suspects de choléra devient de plus en plus une menace dans la province. En seulement quelques jours, la situation est passée d'une vingtaine à une centaine de cas suspects, parmi lesquels 16 décès, soit une létalité de 13,8%. Les échantillons sont prélevés et envoyés à l'INRB. Selon le chef de division provinciale de la santé, DPS Maïndombé, 5 zones de santé sont affectées, à savoir Mouchier, Nyoki, Kwamout, Yumbi et Bolobo. Docteur Francis Campbell précise que Bolobo reste l'épicentre de la maladie avec plus de 45% des cas à cause de sa proximité avec le fleuve Congo et l'Équateur. On l'écoute.
Présentement, nous avons enregistré 116 cas suspects de choléra, dont 16 décès, soit une létalité de 13,8%. Les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'INRB. Maintenant, nous attendons les résultats pour confirmer ou infirmer l'épidémie. Actuellement, la zone de santé qui enregistre beaucoup de cas, près de 45% des cas, proviennent de Bolobo. Bolobo a 51 cas suspects, dont 3 décès. Bolobo, c'est sur le fleuve Congo. Vous savez, Bolobo est en étau pratiquement à l'épidémie était à l'Équateur, on l'a à Kinshasa. Et il y a un marché qui s'est fait à Bolobo, Yumbi. Alors, cet afflux de personnes l'a fait en sorte que Bolobo enregistre beaucoup de cas. Et même Yumbi, qui avait un cas, l'autre fois est déjà à 14. Alors, nous craignons cette semaine, avec les marchés qui s'est fait à Yumbi et à Bolobo, que nous ayons encore beaucoup plus de cas. Mais après Bolobo, c'est Nyoki qui vient en deuxième position, avec 27 cas suspects. Et Nyoki, il faut signaler que c'est à Kibambili. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène, afin que les cas ne puissent pas augmenter de façon exponentielle.
Le chef de division provinciale de la santé de Maïndombé indique que la formation des prestataires a débuté à Bolobo afin d'organiser la surveillance avec le plan de riposte de la province. Francis Campbell parle aussi d'une somme de 10 millions de francs congolais mise à la disposition de son service par le gouvernement provincial du Maïndombé pour faire face à cette maladie. En même temps, il plaide auprès des partenaires et du gouvernement central pour un appui en faveur de la riposte contre le choléra. Il a été joint par Nana Plurich Mambou. Et dans la Tchopo, l'épidémie de choléra progresse dangereusement. L'épidémie se généralise quasiment dans cette entité. Au total, 15 zones de santé sur les 23 en sont touchées. Depuis la déclaration officielle de cette épidémie le 7 juillet dernier par le gouverneur de province, 3939 cas enregistrés, dont 254 décès sont rapportés. Comment peut-on expliquer cette situation? Le point avec Jacques Moukoncoulé.
Parmi les 15 zones de santé affectées par l'épidémie de choléra, 3 zones urbaines de Kisangani y figurent, notamment les zones de santé de Kisangani-Makiso, Kabondo et Lubunga. A priori, le manque d'hygiène alimentaire est à l'origine de la propagation de cette maladie dans la Tchopo, affirme le docteur Bienvenu Ikomo, médecin chef de division provinciale de la santé.
Lorsqu'on prend de l'eau et des aliments qui sont contaminés, alors vous serez aussi contaminé. Et vous voyez, avec le fleuve, les gens sont en train de déféquer dans l'eau, dans la zone de santé de Wanyaru. J'ai vu comment est-ce que les gens sont en train de déféquer dans l'eau.
Depuis la déclaration de cette épidémie, les gouvernements provinciaux et ses partenaires techniques et financiers se mobilisent. À ce sujet, 3 zones de santé à haut risque vont bénéficier d'un appui en vaccin. Il s'agit des zones de santé de Lubunga, Opala et Wanyarukula.
Et c'est une vaccination qui va prendre presque toute la semaine. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter Wanyarukula. Il arrive à Kisangani aujourd'hui, il va rentrer demain, il va trouver le vaccin et on va le vacciner.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Retournons au Nord-Kivu où les armes détenues illégalement continuent d'endeuiller de nombreuses familles dans la ville de Goma et ses environs. Cette situation est déplorée par plusieurs acteurs en cette date du 9 juillet à laquelle est célébrée la journée mondiale de la destruction des armes légères. Cette journée mondiale dédiée à la destruction des armes légères a malheureusement aussi été endeuillée. Au moins 3 personnes ont été tuées au cours de la nuit de mardi à ce mercredi. Et plusieurs autres blessés dans la ville et ses environs rapportent des sources diversifiées. Les détails avec vous, Alain Irung.
Dans la matinée ce mercredi 9 juillet vers 6h30 local, un motard a été abattu et sa moto emportée par des bandits armés non autrement identifiés sur l'avenue Maman Christine au quartier Kieshero. Pendant que dans la soirée d'hier mardi, ce sont 2 femmes qui ont été abattues entre 19h et 20h à Mubambiro, groupement Kamurunza, près de la cité de Sake en territoire de Masisi, indiquent plusieurs sources. Pour ces sources, la nuit de mardi à ce mercredi a été également marquée par une série de braquages dans le quartier Kasika où une personne a été blessée par balle et plusieurs biens emportés. Par ailleurs, à Shebanza, à la limite entre Mugunga de Goma et groupement Rusayo de Niragongo, au moins 2 personnes ont été blessées par balle et armes blanches. Dans la région de Goma et au Nord Kivu en général, des destructions d'armes ont eu lieu par le passé, mais depuis une nouvelle escalade de violence, le nombre d'armes détenues, notamment par les civils, s'est accru, causant des morts presque chaque jour. C'est surtout et notamment dans cette zone occupée par les rebelles de l'AFC M23 et entourée par des groupes armés dont le nombre est en perpétuelle croissance.
Ici, dans la capitale, les agents de l'administration publique espèrent enfin souffler. C'est ce mercredi qu'a débuté le paiement d'une partie des arriérés des salaires et des primes. Pour le moment, ils perçoivent 3 mois sur les 8 en retard, d'après le président de l'intersyndicale de l'administration publique. L'annonce a été faite hier mardi, à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial et l'intersyndicale, rencontre présidée par le vice-gouverneur Eddy Ieli. L'exécutif provincial a promis en outre de garantir une rémunération régulière aux agents de la ville. Le président de l'intersyndicale s'en réjouit. David Delors Louyeye appelle les agents à l'apaisement. Suivez cet extrait de ses propos choisis par Babel Mpongo Masimango.
Nous avions échangé autour des questions majeures qui rongent l'administration urbaine, notamment la rémunération du personnel tant administratif que politique. L'exécutif provincial, après avoir ramassé tous les désiderata du banc syndical, a résolu ces problèmes tant soit peu. Il a été résolu que la paye du personnel de l'administration urbaine sera déclenchée de mercredi. Le 9 juillet, les agents seront payés 3 mois sur le 8 mois. Nous avions réitéré nos remerciements aux membres de l'exécutif provincial. Le banc syndical a toujours cherché qu'il y ait un cadre de dialogue franc. Aujourd'hui, il a été accepté par l'exécutif provincial et c'est ainsi que nous demandons à tous les agents de l'administration publique urbaine qui étaient touchés par le communiqué que nous avions fait pour lesquels ils réclamaient leurs droits. Nous leur demandons l'apaisement et les invitons à vaquer librement à leurs occupations en attendant que nous puissions communiquer une rencontre avec eux dans le cadre de la restitution de nos échanges auprès de toute l'administration publique urbaine.
Et au Kasaï oriental, c'est la clôture d'une session de formation destinée aux conseillers communaux en marge de la tenue des élections municipales et locales. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO a formé en ligne depuis 2 jours ses conseillers communaux de Mbujimayi. D'après la coordinatrice provinciale de CAFCO Kasaï oriental, le but est de préparer ses conseillers qui sont actuellement des grands électeurs à opérer de choix judicieux du maire et de son adjoint, des bourgmestres et de leurs adjoints, ainsi que des conseillers urbains. Gertrude Ndaya, coordonnatrice provinciale de CAFCO, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Aujourd'hui, on a planché sur les systèmes électoraux en République démocratique du Congo. Ils ont vu aussi le module sur le contentieux électoral. Vous savez, CAFCO est en train d'insister sur la participation accrue des femmes dans les instances de prise de décision. Et les élections sont une opportunité justement pour que les femmes puissent aussi s'intéresser et être en mesure de compétir avec les hommes. Dans le contentieux électoral, CAFCO a mis à la disposition dans chaque province un collectif d'avocats qui sont à la disposition des femmes candidates au cas où elles souhaiteraient aller au contentieux pour un accompagnement de qualité.
Actualité internationale. L'Ukraine vient peut-être de subir sa pire attaque aérienne depuis les débuts de la guerre. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, 728 drones et 13 missiles russes ont été lancés contre le pays, un nouveau record selon l'armée de l'air ukrainienne. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses régions et l'Ouest a été particulièrement visé. Une personne a été blessée à Kiev, un couple touché à Zaporizhia, mais aucun mort civil n'a été signalé pour l'instant. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté 711 drones et détruit 7 missiles tout en déplorant d'importants dégâts matériels.
L'invité.
Enfin, notre invité de ce journal est Luc Loutala, coordonnateur national de CIMOCEL. Il revient sur les recommandations en matière de réformes électorales discutées à Kananga. Luc Loutala s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Luc Loutala, bonjour.
Bonjour.
Un dialogue multi-acteurs autour des réformes électorales. C'est quoi la nécessité actuellement? Parce que nous ne sommes pas pendant les élections, quoique nous attendons encore le reste du processus.
D'abord, nous sommes au troisième dialogue multi-acteurs. Après, 2 autres qui ont été organisés respectivement au Congo central et dans la province de l'Équateur. Et ça, c'est un processus normal de consolidation des recommandations qui vont faire l'objet des réformes électorales auprès des sénateurs, députés, parce que vous savez que c'est ce qui va arriver très rapidement. On suppose que d'ici 2026, le processus des réformes électorales sera enclenché. Et en tant qu'une mission d'observation citoyenne, il est nécessaire pour la CIMOCEL de soumettre les recommandations qui vont faire l'objet du plaidoyer à la censure des citoyens. Et ici, nous sommes pour soumettre les recommandations, en fait, aux différentes parties prenantes et voir comment elles le prennent et comment elles peuvent les reformuler.
Vous avez formulé certaines recommandations à la suite des élections et vous revenez pour suivre ces recommandations ou formuler d'autres. C'est quoi la démarche?
Nous avons observé les élections dans les 26 provinces. À l'issue de l'observation, il y a toujours des recommandations. Ces recommandations sont faites, en fait, dans le processus des recoupements des rapports et il est important de venir encore consolider l'appropriation de ces recommandations auprès des parties prenantes et nous rassurer qu'elles sont conformes aux ressentis et aux besoins que ressentent les parties prenantes.
Facile de soumettre des recommandations aux élus du peuple et aussi voir ces recommandations être acceptées, parce que vous n'allez pas faire un processus pour lequel vous savez que par la suite vous allez être bloqué quelque part au niveau de l'organe délibérant, par exemple.
L'avantage se trouve à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que une fois que ce que vous faites exprime les besoins de la population, cela acquiert de la légitimité. Et donc, nous donnons plus de légitimité aux recommandations de nos plaidoyers. Le deuxième avantage est que ces recommandations nous ouvrent la voie à une bataille. Nous ne disons pas que la bataille est déjà gagnée. Amener à influencer les politiques, à prendre ce que vous soumettez, c'est déjà une victoire. Mais nous sommes prêts à nous battre pour cela.
Parce que nous parlons des recommandations, lesquelles ont été pertinentes ou sont pertinentes actuellement pour améliorer le prochain cycle électoral? Parce que vous dites qu'il y a eu des recommandations qui doivent être consolidées.
Il y a des recommandations qui appellent à la clarification des dispositions légales. Supposons ce qui concerne l'audit du fichier électoral, par exemple, il est question de demander que ça soit légal, que ça ne dépende pas du bon vouloir de la CENI. Il y a des recommandations qui portent sur la clarification ou l'amélioration du cadre légal. Supposons la mise en place de l'équipe de la CENI. On a vu tout le cafouillage auquel cela a donné lieu. On demande aux législateurs de clarifier les termes. Évidemment, on a vu pendant les contentieux tout le trouble qu'il y a eu entre les différentes instances de gestion du contentieux. Tel juge dit ceci, l'autre va ceci, l'incompatibilité entre les décisions des juges et de la CENI. Et donc, nous avons en gros 18 recommandations prioritaires qui sont tirées des 36 recommandations qui ont découlé de l'observation. Et c'est ces 18 recommandations prioritaires que nous allons soumettre plus ou moins à la censure des parties prenantes. Question de nous assurer que formulation et le contenu de ces recommandations sont effectivement conformes à ce que ressentent les populations des différentes provinces. Le plus important, c'est que nous ayons une démarche dans laquelle nous, acteurs, la société civile, les autres acteurs, je crois que les dynamiques se mettent en place de manière très ordonnée, et la population. Le travail d'une mission citoyenne, c'est de s'assurer que le message qu'elle porte, c'est vraiment le message que la population lui a confié. Ça veut dire mener le plaidoyer.
Monsieur Luc Luntala, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Ainsi prend fin ce journal. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga et Alain Irung. Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.